d'âge.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune. C'est la
mort. Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et oui, il est avec nous en studio comme chaque semaine, c'est le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, notre série préférée est terminée.
Crois-tu ?
Ah non, il y a un autre épisode, épisode surprise.
Je t'explique. Combien étaient les trois mousquetaires, Mathieu ?
Ils étaient quatre.
Et ben voilà.
Et ouais,
donc
ouais.
Ma trilogie, il y aura quatre épisodes. C'est comme ça.
Génial.
Je suis Alexandre Dumas, petit-fils, on va dire. Et oui, je vais faire une suite à notre trilogie parce qu'en fait, on était resté sur une question brûlante qui concernait la crise provoquée par le réchauffement climatique. J'avais posé la question, est-ce que ces milliardaires libertariens qu'on a évoqués croient vraiment que les solutions qu'ils préconisent face au réchauffement climatique, hein, face à cette question-là, seront efficaces ? Or, j'avais dit, si tu te souviens bien, la semaine dernière, que, a priori, ma réponse était plutôt non, ils n'y croient pas.
Ouais.
Mais bon, c'est bien de prouver un peu, d'étayer un peu cette affirmation peut-être gratuite. Je vais donc, pour montrer pourquoi cette réponse négative est la plus probable, décrire dans cette chronique, l'idéologie des milliardaires. Je vais me servir de deux articles très détaillés qui m'ont servi de fondement. Il y a un article de Thibaut Prévost dans le site Arrêt sur image par abonnement, vraiment un excellent article. Et un article américain qui a été traduit en français dans le site, sur le site terrestre.org et qui est tiré d'un ouvrage collectif d'universitaires dirigé par, devine qui, Bruno Latour, notre fameux Bruno Latour, à qui on a rendu hommage il y a quelques semaines lors de son décès. Alors, on y va ?
Allons-y.
C'est parti. On le sait donc, le nombre et la fortune des milliardaires a explosé sous le régime politique néolibéral grâce à la mondialisation et la révolution des marchés financiers. Beaucoup d'entre eux sont les nouveaux héros des temps modernes, d'accord ? Auxquels beaucoup de jeunes s'identifient et des moins jeunes également. Et en plus, Mathieu, c'est des bons gars.
Ah oui.
Oui, c'est des bons gars.
C'est vrai.
Eh bien oui, ils veulent aider le monde. C'est des bons gars, d'accord ?
Ah, d'accord.
Ils consacrent donc une partie de leur fortune à des œuvres caritatives. Ce qui est un paradoxe, hein, quand même, tu le noteras, parce qu'en fait, ils consacrent aussi une grosse partie de leur temps à échapper à l'impôt,
ouais,
hein, par des stratégies fiscales assez sophistiquées, ce qui diminue d'autant les recettes des États, et donc la capacité des États à aider le monde.
Ouais.
D'accord ? Donc c'est un paradoxe, mais en fait non. Si pour les auditeurs qui ont suivi mes chroniques précédentes, vous vous souvenez que pour la plupart de ces milliardaires libertariens, ils sont convaincus que l'État n'est pas la solution, mais est le problème. Mmh. Donc pour eux, c'est normal. Alors, un mouvement très populaire est né il y a 15 ans chez ces milliardaires qui s'appelle l'effective altruism. L'altruisme efficace.
Ouais.
Je traduis, hein, quand même. Il s'agit en fait de trouver des méthodes scientifiques pour faire des choix objectifs, efficaces, rationnels, histoire de montrer qu'on est plus efficace que l'État. D'accord ? Pour faire tous ces dons, ces actions en faveur de la société. Alors, dans notre description du régime politique d'accumulation néolibérale qu'on avait fait, et qui est encore un peu dominant aujourd'hui, on avait mentionné cette philosophie, c'est la démocratie des experts. Plutôt qu'un système démocratique, il vaut mieux confier des affaires à des experts. Voilà, c'est un peu cette philosophie. Une petite remarque en passant, le penseur de ce mouvement de l'altruisme efficace, c'est un philosophe qui s'appelle William McHaskill, a expliqué qu'il était logique et légitime que les milliardaires se soient d'abord employés à réaliser des fortunes immenses, à devenir milliardaires en quelque sorte. Parce qu'ensuite, ils vont pouvoir faire le bien.
Mmh.
D'accord ? Donc c'est normal. Et là, il a utilisé, une comparaison absolument incroyable. Il a comparé ça à l'industriel allemand Oskar Schindler, la liste de Schindler,
ouais,
qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant, a fait fortune grâce aux nazis.
Ouais.
Mais attention, il a quand même pu aider 2000 juifs. Hein.
Ouais.
Il a sauvé 2000 juifs des camps de concentration. Et donc là, on a envie de lui dire, attends, William, bouge pas. Un instant, tu crois pas que ce serait peut-être mieux que Schindler, il ait lutté contre l'avènement des nazis au pouvoir plutôt que faire comme ça ?
Ouais.
Ah, je sais pas, je pose la question, hein, mais bon.
Ouais.
Chacun sa réponse.
S'ils peuvent faire le bien après être devenus milliardaires, ça veut dire qu'avant,
ouais,
ils le faisaient pas vraiment.
Et il en a profité, ouais, des nazis, en quelque sorte. En fait, le concept de l'altruisme efficace est une traduction moderne de la philosophie de la bourgeoisie industrielle dominante du 19e siècle, qui consistait à installer sa domination sur un système économique pour ensuite redistribuer des miettes via la charité. Ça, c'est rien d'autre que ça, en fait. Mais bref, ce concept n'est pas le plus important pour bien comprendre l'idéologie des milliardaires. On va passer à autre chose, mais on va rester sur le même philosophe, William McHaskill, qui en 2014 s'associe avec un autre philosophe, un Suédois cette fois-ci, Nick Bostrom, pour étudier quoi ? Eh bien étudier un concept que Nick Bostrom avait créé, qui est le concept de risques existentiels pour notre civilisation. Et il a donc, William McCaskill et Nick Bostrom, ensemble, ont listé tous les risques qui pèsent sur la survie de notre civilisation. Alors, c'est un genre d'inventaire à la Prévert. Okay. En vrac, tu as les nanotechnologies, dont l'usage pourrait être incontrôlé. La géo-ingénierie, oui, c'est vrai, faire mumuse avec le climat, etc., ça pourrait mal tourner. Bah, évidemment, une collision entre la Terre et un astéroïde, c'est classique. Une pandémie, ils avaient pensé quand même, pas bête. Parmi tous ces risques, il y en a un qui prédomine, c'est le risque du développement d'une intelligence artificielle dite générale qui dépasserait l'intelligence humaine. Ça, c'est la fameuse théorie de la singularité des transhumanistes qui définit le moment où les intelligences artificielles dépasseront définitivement l'intelligence humaine et la capacité des êtres humains à la contrôler. D'accord ? Voilà, donc dans tous ces risques, Nick Bostrom et William McCaskill font la liste et puis se posent des questions sur comment les éviter, etc. Mais en fait, Nick Bostrom, au-delà du simple fait d'éviter l'extinction de l'espèce humaine, se place un autre objectif. Et l'objectif, c'est de réaliser le plein potentiel de l'humanité. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, il a une vision extrêmement quantitative de la question. Il s'agit en fait pour lui de créer des êtres humains aux capacités intellectuelles surpuissantes en faisant une sorte de couplage, de combinaison avec les systèmes informatiques. Ouais. D'accord ? Donc c'est ça sa vision. Et on s'aperçoit que dans cette vision, on est complètement dans une logique productiviste où il s'agit en fait d'atteindre des niveaux d'efficacité extrêmes d'exploitation des ressources et de contrôle. Bref, il s'agit d'être des super capitalistes. Mmh. D'accord ? Le rêve de Nick Bostrom, le rêve de ces milliardaires, c'est d'être encore et toujours plus des capitalistes. C'est merveilleux, hein, d'accord ? D'exploiter toujours le monde. Le monde, pas uniquement, hein, d'exploiter l'univers, ouais. Parce que le monde ne va pas suffire. Et oui, ils sont pas fous, les milliardaires. Ils savent bien qu'ils sont en train d'épuiser notre planète. D'accord ? Pour info, je mettrai dans le podcast aussi un rapport fait par Oxfam et Greenpeace sur l'impact de l'activité des milliardaires sur le réchauffement climatique, qui est absolument faramineux. Alors qu'ils se préparent pour affronter cet épuisement. On en vient à la question que je posais. Mmh. Pourquoi je dis non, ils n'y croient pas ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout en train de préparer une lutte pour maîtriser le réchauffement climatique. Ils préparent autre chose. Alors qu'est-ce qu'ils prévoient ? Ils prévoient d'abord à long terme, et ça on le sait, puisque c'est les violons des projets de Jeff Bezos et Elon Musk, eh bien d'aller sur Mars, coloniser Mars, blablabla. Ok, ça c'est de la SF, tranquille. Oui. Mais ça montre déjà que la Terre, l'idée c'est de l'abandonner. Oui, mais à court terme, qu'est-ce qu'ils prévoient à court terme ? Eh bien à court terme, ils prévoient, là c'est beaucoup fait beaucoup plus discrètement, parce que c'est en route, hein, c'est déjà en route, d'identifier les zones géographiques sur Terre où ils pourront s'installer et se barricader. Pendant que le monde étouffera peu à peu. Alors, je vais te parler, tu vas essayer de deviner. Une île très éloignée du reste du monde, autosuffisante, relativement stable politiquement, avec de vastes terres inhabitées, gorgées d'eau propre, et qui ne devrait pas beaucoup être affectée par le réchauffement climatique. À quelle île tu peux penser, Mathieu ?
Alors là, j'en ai aucune idée.
Allez, pas loin d'Australie ?
Non, je sais pas.
La Nouvelle-Zélande, Mathieu.
La Nouvelle-Zélande, c'est le paradis.
C'est la destination numéro un. Qui est privilégié par ces milliardaires pour s'installer dans cette perspective-là. Numéro 2, il y a l'Argentine, certaines zones de l'Argentine également.
D'accord. C'est super, c'est magnifique, la Nouvelle-Zélande.
En attendant, les milliardaires ont pour idée de ne pas hésiter, pourquoi pas, à contribuer à l'effondrement des États. Je vous rappelle que ce sont des libertariens. Ouais. Donc comment ? Alors, ce n'est pas une idée récente, cette histoire-là. Il y a un roman sorti en 1957, qui est devenu le roman culte des libertariens, écrit par une Américaine qui s'appelle Anne Rand. En français, le titre, c'est « La grève ». Alors, c'est un livre qui raconte la révolte des hommes de l'esprit. Qui sont l'élite du monde, okay. Et qui abandonnent le monde et provoquent l'effondrement du monde. En 97, quelques décennies plus tard, deux auteurs américains, James Dale Davidson et William Rees-Mogg, publient « The Sovereign Individual », ce qui veut dire « l'individu souverain ». Mais le sous-titre est intéressant, je vous le traduis en français. « Comment survivre et prospérer pendant l'effondrement de l'État-providence ». 97, ce roman, il décrit un monde où, sous les coups de boutoir de l'innovation, par exemple les crypto-monnaies, la cyber-économie, etc., eh bien, peu à peu, les États s'effondrent. Et les élites mettent en place leur survie à coups de paradis fiscaux, d'investissement dans ce qu'on appelle à l'époque le cyberespace. Tiens, on pourrait appeler ça le métavers aujourd'hui. Et donc, le livre présente une sorte de royaume d'activité économique sans existence matérielle, le métaverse, où les bénéfices iront à l'élite cognitive, l'élite, les milliardaires, qui agira de plus en plus en dehors des frontières politiques. En fait, là, je suis en train de vous citer des extraits du bouquin, enfin de la présentation du bouquin, qui jouira d'une sorte d'immunité diplomatique contre la plupart des malheurs politiques qui tourmenteront les mortels. Mmh. D'accord ? Dans le même environnement physique que les mortels du commun, mais dans un royaume politiquement différent, à distance de l'apocalypse, la Nouvelle-Zélande, Mathieu. Voilà. Et si tu en veux un peu plus de détails sur les actions possibles de ces élites, eh bien on peut revenir à Nick Bostrom, le philosophe, qui a ainsi défendu la possibilité de frappe préventive contre un État qui présenterait un risque existentiel pour l'humanité. Bon, ben, qui va définir la notion de risque existentiel, c'est à voir. Il a défendu aussi la construction d'un système de surveillance mondiale omniprésent et en temps réel pour prévenir l'émergence d'une technologie incontrôlée. D'accord. Big Brother, hein, technologique, voilà. Ou alors, il y a un autre philosophe, penseur de l'altruisme efficace, Nick Beckstead, qui soutient l'idée que les vies des habitants des pays riches doivent être prioritaires sur celles des habitants des pays pauvres, car les plus riches innovent substantiellement plus et leurs travailleurs sont plus productifs. Mmh. Voilà. Donc en gros, j'en ai terminé, Mathieu, avec l'idéologie des milliardaires. Elle est fondée sur une relation à la démocratie extrêmement élastique, hein, d'accord, c'est pas une valeur très dominante, on l'avait vu dans la chronique précédente. Un rapport au réchauffement climatique en mode, ben, vous savez quoi, démerdez-vous. Donc, on pourrait dire en conclusion, le néolibéralisme affirmait que le recul de l'État était nécessaire pour le bien commun, hein, ça c'était donc le discours des néolibéraux, et bien les libertariens, ils n'ont pas ces scrupules. Pour eux, le recul de l'État est la finalité, c'est le socle de leur pensée. Quant aux conséquences, ils ne cherchent même pas à agir contre les conséquences, réchauffement climatique, destruction environnementale, il s'agit de l'idéologie du laisser-faire. Laisser-faire quoi ? Laisser-faire la sélection naturelle, en quelque sorte. Seuls les plus forts survivront. Les plus forts, ce sont eux, ce sont les milliardaires. Un film illustre parfaitement ça, un film de science-fiction, il s'appelle Elysium. Je mettrai la bande-annonce dans le podcast, parce que c'est une fiction qui présente ce monde où ce genre d'événements sont advenus. J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick. À la semaine prochaine.
À plus.
Ensemble sur Calade.